Sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
La butte Montmartre, le Sacré-Cœur ou la Tour Eiffel ont sur lui le même effet que la Statue de la Liberté. Un effet home sweet home. Eddie L. Harris, né à Indianapolis aux États-Unis, a peut-être tout d'un Américain moyen, la désinvolture et le Mississippi dans le regard. Et pourtant, il n'y a pas plus Frenchy que lui. Après avoir enquêté sur ses racines et le malaise des Noirs aux États-Unis, on se souvient de Harlem et de Jupiter et moi, Eddie L. Harris a choisi de vivre en France, entre Pranzac, petit village charentais, et Paris. Paris où il observe sur les 215 pages de Paris en noir et black aux éditions Liana Levy qu'être black ne signifie pas tout à fait être noir.
Quand je me suis trouvé de l'autre côté de l'océan, j'ai pu voir clairement d'où je venais. Et j'ai réalisé que c'est moi-même que j'emportais ma maison avec moi.
Bonjour Eddie L. Harris.
Bonjour.
On reconnaîtra peut-être le regard de James Baldwin dans cette phrase que vous avez mis en exergue de votre livre, et sans doute pas par hasard. Est-ce que ça veut dire que vous avez la sensation de marcher dans les pas de ce James Baldwin ?
Il me semble que je marche dans les pas, dans les traces de Baldwin et Richard Wright aussi. Parce qu'ils ont...
Écrivain noir américain.
Oui, les deux qui sont quittés les États-Unis, effectivement, et aussi qui ont écrit sur le sujet d'être noir dans une certaine façon. Il y a beaucoup d'autres écrivains noirs aux États-Unis aussi qui écrivent d'autres choses. Mais il me semble, avec cette sorte d'exil, je suis dans leurs traces plus que dans les traces d'autres écrivains noirs ou d'autres écrivains américains.
On va voir pourquoi. À New York, il paraît que vous êtes un écrivain post-black, c'est-à-dire, vous tiquez, c'est-à-dire libéré du fardeau de l'homme noir. Est-ce que ça veut dire que vous n'intéressez pas, vos sujets n'intéressent pas vos concitoyens ?
Il y a un côté de ça, oui, mais mon public noir américain ne me lit pas.
Pourquoi ?
Parce que j'ai fait un livre sur l'Afrique il y a 20 ans. Et dans ce livre, j'ai critiqué les gouvernements de l'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique. Et j'ai parlé du fait que je me sens plus américain qu'africain. Et à cette époque-là, c'était inconcevable de dire pour un noir américain de dire qu'il n'était pas, en fait, africain. Donc c'était pas politiquement correct.
Ce qui n'explique pas forcément votre exil, les raisons de cet exil, mais cet exil en terre de France, vous diriez que c'est un exil touristique ?
Bon, je me décris souvent comme un touriste en permanence. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le tourisme ou l'exil. C'était juste parce que j'ai choisi Paris il y a très longtemps pour vivre. C'est une ville que j'aime bien. De plus en plus, j'adore ce pays, la ville bien sûr, mais le pays aussi. Et je suis devenu de plus en plus un peu français, on peut dire. J'ai quitté un certain côté. Bon, c'est-à-dire que je pense culturellement, la culture est fluide. Donc pourquoi pas choisir ce qui on est. Et moi, j'ai décidé à un certain point que la couleur de ma peau n'était pas la plus essentielle de Eddie Harris. Et puisque je pouvais choisir qui je voulais être, et pourquoi pas être français, pourquoi être dans un autre pays, pourquoi pas faire des choses comme je voulais faire et pas juste parce que je suis né dans un lieu, dans une condition, dans une circonstance, pourquoi pas choisir pour moi-même.
Alors je suis un petit peu surprise, hein, Mr. Harris, en vous écoutant comme ça sur ces premières minutes, de vous entendre parler un français parfait, mais sans postillonner du tout. On va y revenir, parce qu'il paraît que bien parler français, c'est postillonner. C'est une manière de rendre hommage à un certain Monsieur Cook, votre professeur de français. On en reparlera. Pour l'instant, c'est l'heure de notre pick-up en sol majeur, sur lequel attend Ray Charles, qui va nous chanter l'hymne de sa ville natale, à savoir Georgia. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle, cette chanson, Eddy Harris?
D'abord, le nom Georgia, c'était le prénom de ma mère. Et quand il chante ses mémoires de Georgia, c'est moi qui pense à ma mère aussi. Et avec une certaine nostalgie et mélancolie peut-être aussi. Et en écoutant la chanson, j'entends la voix de ma Georgia.
Ray Charles dans le programme en sol majeur d'Eddy Harris sur RFI.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I said, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Magnifique Ray Charles dans les oreilles de notre invité, Eddy Harris, américain lorsqu'il fait l'écrivain, mais français lorsqu'il va chercher sa baguette de pain. La suite en sol majeur.
Que savez-vous de vos ancêtres?
Je sais un peu de tout. D'où je venais, dans une façon, de pays de Galles, mais aussi de l'Afrique. Mais où en Afrique, je ne peux pas dire. Mes ancêtres venaient des États-Unis depuis la fin du 18e siècle. J'ai tracé mes racines jusqu'à un petit bled dans l'état de Virginie, où était né un esclave, fils d'un fermier, d'un Gaulois.
Gallois. Oui, parce que c'est à nous, ça, les Gaulois.
Oui, Gallois et une esclave africaine.
Oui.
et qui était bien sûr métisse, qui était le premier ancêtre que nous reconnaissons dans la famille. Et à partir de lui, je suis africain, européen, blanc et noir, et le métissage de l'Amérique du Nord, des États-Unis, sont dans mes veines. C'est à cause de cet homme que je me sens plus américain qu'africain. Un peu de l'Europe, un peu d'Afrique, un peu de tout ce qu'on a aux États-Unis.
Donc une famille au sang mêlé. Dans Jupiter et moi, votre second roman, Eddie Harris, vous faisiez, je crois, le portrait de votre père, une figure que vous décrivez par excellence comme celle de la souffrance et de la distance par rapport à cette souffrance.
Oui, parce que c'était un homme qui a bien souffert dans sa vie, mais qui ne voulait pas que ses enfants souffrent aussi. Donc il a gardé sa souffrance dans lui. Je ne peux pas dire qu'il l'avait caché, mais il l'avait gardé pour lui-même pour que ses enfants ne le portaient pas comme un héritage. Mm-hmm. Donc il était un libérateur pour moi. Il m'a montré le chemin de je ne peux pas dire échapper, mais je vais dire échapper. D'échapper une certaine négritude pour que je puisse vivre la vie d'Eddie Harris. Même pas la vie de Samuel, mon père, mais la vie d'Eddie Harris. C'est une sacrée chance, mais aussi un gros cadeau.
D'autant que vous vous souvenez de la voix de ce papa lorsqu'il vous racontait certains de ses épisodes tragiques.
Bien sûr. Jupiter n'était pas mon deuxième roman. C'était en fait mon quatrième livre, ou ma cinquième peut-être.
I'm so sorry.
Mais pas édité en France. Et dans plusieurs de mes livres, je cite les histoires de mon père, qui était omniprésent dans la maison, mais qui racontait ses histoires depuis son enfance jusqu'à sa mort, en fait. Et je raconte souvent, je me souviens de beaucoup de ses histoires.
Un papa donc qui vous a libéré du fardeau de la négritude à tel point qu'il a décidé de vous placer dans un collège blanc catholique.
Oui, pas forcément parce que c'était une collège blanche, mais parce que c'était la meilleure école dans la ville de Saint-Louis. Mmh. Donc il voulait que j'avais toutes les chances que toute autre personne dans la ville.
Quelle est la carte géographique de votre enfance ?
Mon enfance est plein de voyages, plein de différents lieux, principalement à travers mon père qui voyageait beaucoup, qui était un grand voyageur, qui voyageait tout seul en fait, même sans ma mère. Il voyageait tout le temps en hiver parce que c'était moins cher en hiver, et il envoyait à la maison des cartes postales. Donc j'avais, je ne sais pas combien, un tas de cartes postales des voyages de mon père, et depuis ma jeunesse, j'étais un voyageur aussi, à travers mon père d'abord, et après dans mes propres voyages. J'ai commencé avec un voyage dans les États-Unis, et après un voyage en Europe, et puis Afrique, et partout.
Alors justement, pardon de vous couper, mais votre carte géographique est aussi une carte littéraire. Il y a au chapitre de vos écrits, notamment Native Stranger, vous me corrigez hein, pour l'accent s'il vous plaît, Eddie, j'en ai besoin. Récit de votre voyage sur le continent africain, vous en parliez au début de l'émission, histoire de savoir si l'Afrique faisait partie de vos racines. Alors, verdict. Un petit peu plus développé tout à l'heure.
Bien sûr, c'est une partie de mes racines. Je suis noir, j'ai des racines africaines. Mais en même temps, les racines de l'Afrique ont été coupées par le fait d'esclavage. Et je suis retourné, on peut dire, en Afrique pour voir jusqu'où était mon africanité. Et en fait, en voyageant là-bas, j'ai vu les Africains me traiter parfois comme un blanc, mais surtout comme un étranger et un Américain riche. Donc j'ai su tout de suite que même avec la couleur de ma peau, la texture de mes cheveux qui ne sont plus, que j'étais...
C'est superbe. C'est la même coiffure que Spike Lee, pardon.
Même avec tout ça, j'étais pas vraiment Africain. Mm-hmm. C'était juste un accident de naissance. Le reste qui venait de l'expérience, de la culture habituelle, la culture quotidienne, j'ai découvert que, en fait, en voyageant en Afrique, que je suis américain.
Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Vous approuvez de la tête, Eddie Harris, en écoutant ces sons d'archives que vous avez choisis. On aura reconnu le discours d'investiture de John Fitzgerald Kennedy en 1961, le I Have a Dream de Martin Luther King en 1963, et puis la voix presque cotonneuse de Neil Armstrong, premier terrien à poser le pied sur la Lune le 21 juillet 1969. C'est vraiment trois hommes qui incarnent absolument le rêve américain.
Qu'il incarne la possibilité, l'espoir de l'Amérique et la faillite aussi, parce que on avait, dans les années 60, on était plein d'espoir pour l'avenir, mais maintenant 40 ans après, on est toujours loin du rêve de Martin Luther King, même avec un président noir dans la Maison Blanche. Donc j'ai choisi ces trois morceaux parce que ils étaient omniprésent dans ma jeunesse. En même temps, quand Kennedy demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays et pas le contraire, moi je me demande pourquoi donner quelque chose à un pays qui a raté chaque occasion de donner quelque chose à nous les peuples noirs qui n'étaient pas vraiment américains jusqu'à il y a une semaine. Donc ils sont importants de ne pas oublier que nous avons beaucoup d'espoir, mais en même temps, nous avons raté beaucoup de choses.
C'est ce qui explique votre rupture apparemment définitive avec les États-Unis ?
Ça explique un peu. Mais je suis toujours américain. Je n'ai pas changé mon passeport. Je ne suis pas changé ma nationalité. Mais j'ai toujours une connexion avec ce pays là-bas. Mais en même temps, je ne peux pas y vivre pendant que l'hypocrisie existe autant que cela.
On va refermer cette première partie dans Sol majeur en musique, avec la musique que vous avez choisie. C'est du jazz grande classe hein, sur le pick-up. Vous avez choisi d'écouter Winton et Eli Marsalis, père et fils, respectivement trompettiste et pianiste. Vous nous présentez le morceau que vous avez choisi d'écouter.
C'est une chanson qui s'appelle « How are things in Glockamora ». C'est juste une chanson anglaise, irlandaise, quelque chose. Bah, pas grand-chose, la chanson, mais la façon où Winton, le fils, prend le relais de son père avec juste, de temps en temps, une petite note du piano du père, symbolise ma jeunesse, la relation avec mon père qui était juste au fond. Il était juste dans les nuages derrière moi tout le temps quand j'ai fait mon chemin.
Sans fausse note.
Sans fausse note.
Pardon à Winton et Eli Marsalis, père et fils. C'est juste quelques notes comme ça dans le programme de notre invité, l'écrivain Eddie Harris, qui revient juste après le journal nous parler des Supremes, bon, et du rôti de porc au pruneau. Ah bon ?